Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Napoléon était un piètre gastronome. Il mangeait en 10 minutes des pâtes arrosées d'un chambertin coupé d'eau et suivies d'un café. Et pourtant, l'époque napoléonienne, c'est l'époque où naît la gastronomie.
Napoléon se doit d'avoir son chef. Il embauche le Grand Dunant.
Et que cette époque nous a donné comme plat, eh bien, je voudrais en retenir un, c'est le poulet maringot. À l'époque, l'usage était de donner au plat un nom de bataille ou un nom de chef militaire.
En France, les régimes passent et la cuisine demeure.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Napoléon passait donc pour un mangeur pressé, malpropre, assez peu porté sur la chose gastronomique. Mais ce portrait officiel semble un peu court au regard de nombreuses sources qui témoignent d'un personnage historique attaché aussi aux saveurs de sa Corse natale, féru de vaisselle et d'art de la table et source d'inspiration de quelques recettes célèbres comme ce fameux poulet maringot. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, on se met à table avec un empereur au goût singulier et on explore sa face gourmande avec nos deux invités du jour, à commencer par Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien rattaché à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours. Vous êtes intervenu, Loïc, plusieurs fois dans cette émission. On peut même dire que vous êtes un habitué de ce micro et fidèle à votre travaux sur l'histoire de l'alimentation, vous avez pour nous disséqué le régime alimentaire de Napoléon. On va en parler tout au long de cette émission et puis on est ravis d'accueillir une chef qui nous vient tout spécialement de l'île de Beauté, c'est Élodie Balèze. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef, restauratrice, hôtelière du Sole Monti,
voilà,
à Cuenza.
Voilà, je suis ravie d'être là, merci.
Merci beaucoup d'être venue. Alors, votre hôtel familial se situe dans l'Alta Rocca, oui, une superbe région de Corse du Sud, et vous dirigez un hôtel-restaurant de charme, dont votre oncle, le fameux Félicien Balèze, a taillé la réputation gastronomique. Vous nous avez spécialement cuisiné des recettes napoléoniennes, je vais y arriver, mais aussi de libre interprétation culinaire autour des goûts de Bonaparte. Et vous nous avez apporté évidemment le fameux poulet
maringot.
Le poulet maringot à votre sauce, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, je demande Elvira Masson et l'un de nos chroniqueurs vins, Antoine Gerbel. Salut les copains.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous et toutes.
Elvira.
L'île d'Elbe.
Voilà, tout simplement, voyage dans l'île d'Elbe avec Elvira et Antoine.
Chacarelle.
Chacarelle, avec l'accent. Faut dire qu'Antoine...
Il a dit où à la fin?
Ouais, il a dit où, c'est où. Oh là là, on va pas vexer les Corses. En tout cas, notre ami Antoine Gerbel a des accointances avec les vins corses, il va nous le montrer. Si vous avez des remarques, des questions ou des messages à nous adresser, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Pour les recettes de notre invité Élodie Balèze, pour nos infos pratiques, nos émissions, nos chroniques en podcast, le chemin est tout tracé, franceinter.fr, à la page On va déguster. On brosse le portrait gourmand de Napoléon et son aventure commence assez logiquement dans l'île de Beauté.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Dans la famille de l'empereur, le principe était de ne pas dépenser. Jamais d'argent, que pour les objets absolument nécessaires tels que les vêtements, meubles, etc. Mais pas pour la table, excepté l'épicerie. Le sucre, café, riz qui ne venaient pas en Corse. Tout, autrement, était fourni par les terres. La famille avait un moulin banal où tous les villageois allaient moudre et qui payaient avec une certaine quantité de farine. Un four banal qui se payait avec des poissons. On apportait le lait, les fromages de chèvre, même la viande de boucherie ne se payait pas. On avait un compte avec le boucher et on donnait en échange de la viande de boucherie tant d'équivalence en moutons, agneaux, chevreaux ou même bœufs. L'important était de ne pas dépenser d'argent qui était fort rare. C'était une grande affaire que de payer avec de l'argent comptant. Il n'y avait à Ajaccio que 2 jardins d'oliviers. L'un appartenait à la famille Bonaparte, l'autre aux Jésuites. Depuis, ils se sont multipliés. L'usage était que les proches parents, oncles, tantes, cousins germains ou grands-pères vinssent faire leur provision d'huile lors de la récolte. La famille récoltait également du vin. Jamais, disait le vieil oncle Lucien avec orgueil, la famille Bonaparte n'a acheté pain, vin ou huile. on avait des cerises génoises qui étaient très bonnes. Il me semble n'avoir jamais mangé rien d'aussi bon. On achetait aussi des pâtes d'Italie, quoi qu'on en fît dans la maison.
La vie rurale de la famille Bonaparte à Ajaccio. Merci à Hervé Pochon pour la lecture de ce document. D'ailleurs, Loïc Bienassi, de quel document s'agit-il ?
En fait, c'est tiré de des cahiers de Sainte-Hélène du général Bertrand, parce que souvent on parle du mémorial de Las Cases qui était à Sainte-Hélène et qui a reproduit justement ses mémoires de Sainte-Hélène expliquant ses échanges avec l'empereur, avec Napoléon. Mais en fait, il y a différents mémorialistes et il y a ces fameux cahiers de Sainte-Hélène de Bertrand qui constituent une source essentielle où il retranscrit de longs entretiens avec l'empereur. Donc en fait, ce texte là, c'est finalement Napoléon qui parle, qui explique comment se passait sa jeunesse corse et finalement ses premiers rapports avec l'alimentation, la nourriture, la cuisine.
C'est ça, et l'organisation vivrière, agricole, alimentaire de sa famille, ouais. Assez frugale et paysanne. Napoléon naît donc à Ajaccio le 15 août 1769. La Corse n'est française que depuis l'année précédente et sa famille Bonaparte, faut-il le rappeler, est d'origine italienne, ce qui expliquera peut-être, on le verra, ses allusions aux pâtes. Une famille qui vit dans une petite maison du 18e siècle à Ajaccio qui ne roule pas sur l'or et leurs ressources proviennent essentiellement du troc et de leur culture vivrière.
Oui, alors c'est quand même la noblesse corse. Ils sont loin d'être à plaindre non plus. C'est quand même l'élite locale. Et là, je dirais que ce qui est retracé avec de la nostalgie dans ce texte, c'est aussi ce qu'on appelle un peu une sorte d'idéal aristocratique de vivre du sien. C'est-à-dire que les nobles vivent de leur rente, de ce qu'on leur apporte, de ce que les paysans apportent. Donc il y a aussi tout cet idéal d'un mode de vie noble qu'on retrouve dans ce texte. Évidemment, on peut ensuite retrouver des traces dans les goûts de Napoléon, des traces de cette formation gourmande initiale. Reste à savoir, réellement, c'est difficile de faire la part des choses, par contre.
Par contre, on peut dire que Napoléon a gardé de cette enfance en Corse un certain goût pour la Méditerranée et ses saveurs.
Alors oui, notamment là, ce qui est évoqué, c'est sans doute, je pense, si on doit choisir un ingrédient, un produit dont on sait qu'il l'a consommé toute sa vie, c'est les pâtes. Ça a été mentionné parce que la Corse, comme vous l'avez dit, en fait, était sous domination génoise depuis le Moyen-Âge et jusqu'en 1768, quand c'est passé donc sous domination française. Et clairement, Gênes était un grand centre de production des pâtes et la culture des pâtes vient aussi de cette ère culturelle italienne à laquelle appartient la Corse.
Oui, on sait même qu'il aimait beaucoup les lasagnes.
Il aimait les lasagnes. Alors, en fait, quand il a 20 ans, il est en poste en Bourgogne. Enfin, il y a eu une insurrection à Sœur. Il est là pour un peu surveiller ce qui se passe avec un détachement. Et il écrit à sa mère, on est à l'époque de Pâques, et il écrit à sa mère en expliquant qu'il préférait être en Corse pour Pâques à manger des raviolis et des lasagnes. Alors souvent, on dit que sa mère devait être bonne cuisinière puisqu'il est nostalgique, enfin, il souhaite manger ses lasagnes.
Nostalgique de cette madeleine d'enfance.
Oui, reste à savoir si, en l'occurrence, c'était réellement sa mère qui les préparait parce qu'il y avait des domestiques et donc, bon. Donc, là, on est en 1789, tout jeune, 20 ans, et on voit qu'évidemment, il y a toujours ce lien gourmand avec la Corse qui s'exprime. Et puis, tout au long de sa vie, on voit qu'il, c'est attesté par différents textes, que, par exemple, il aime les macaronis. Il aime les macaronis, mais c'est à la fois, on peut y voir une trace, donc, comme je le disais, de ce goût pour les pâtes, mais c'est aussi un plat, enfin les macaronis sous différentes formes, qui appartient à la haute cuisine.
Bien sûr,
chez Carême, voilà, tout à fait.
Des timbales de macaronis, exactement, voilà, ça a été vraiment un plat très francisé.
Tout à fait. Donc c'était ces timbales, en fait, c'était en pâte, en fait, c'était des macaronis dans une sorte de pâte en forme, alors plus ou moins allongée, enfin des formes variées, mais c'était un plat de haute cuisine. Donc finalement, la table de l'empereur, c'est une table où s'exprime quand même la haute cuisine. C'est logique. Et on peut voir peut-être là un goût plus original, personnelle, plus intime avec ses pâtes qui remonteraient à l'enfance.
Et on trouve aussi quelques traces dans la documentation à notre disposition d'une petite lubie de Napoléon pour un poisson qu'on trouve beaucoup en Méditerranée.
Alors pour le rouget ?
Ouais.
Madame Avrillon qui l'indique dans ses mémoires.
Vous nous la situez ? C'était la première femme de chambre
Joséphine. Alors par contre, alors c'est vrai. C'est attesté. Lorsqu'ils sont à Gênes, elle explique que Napoléon avait un goût particulier pour le rouget. Mais par contre, ça reste aussi la seule mention, à ma connaissance en tout cas, de ce goût de Napoléon. Alors, pour le rouget et même pour le poisson en général, c'est pas quelque chose qui est souvent mentionné dans les documents, dans les sources, dans les mémoires que j'évoquais. On parle de différents produits, je pense qu'on y reviendra, mais le poisson, ce n'est pas ce qui revient le plus souvent, loin de là.
Absolument. Voilà, on commence à échafauder, brosser comme ça un premier portrait de Napoléon. On le poursuivra notamment du côté de la Méditerranée un peu plus tard avec le voyage que nous proposera Elvira du côté de l'île d'Elbe, cette fameuse île de Toscane au large de la Corse. Élodie Balèze, si vous nous confirmez qu'on mange toujours autant de pâtes en Corse ?
On en mange, bien sûr.
Vous en cuisinez au Solemonti ?
J'en cuisine, pas trop non plus, mais j'en cuisine.
Des pâtes fraîches, des pâtes sèches ?
Voilà, un peu des deux.
Pour
accompagner des viandes plutôt locales. On essaye de faire ça comme ça, quoi.
Très bien. Élodie Balèze, quand je vous ai demandé de réfléchir à une recette corse, assez simple, rustique, pouvant refléter le régime alimentaire des Ajacciens à l'époque de la famille Bonaparte, vous avez spontanément pensé à...
polenta.
Voilà.
La polenta.
Voilà. Alors, il y a un petit débat entre le nord et le sud de la Corse.
La polenta ou la pulenda.
Plutôt au nord, pulenda avec un D, pulenta
sud, exactement.
Avec un T. En tout cas, il ne s'agit absolument pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une polenta de maïs.
Non. Exactement, c'est de la polenta de châtaigne, à base de farine de châtaigne, d'eau et de sel. Et c'est sûr qu'un des produits emblématiques de la Corse, c'est la châtaigne, parce que ça a été... c'est surtout une culture qui a été hyper développée du temps des Génois. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle la Corse n'a jamais souffert de famine, puisqu'il y a toujours eu de la châtaigne.
Qui était une sorte de manne quotidienne, en fait,
voilà,
de pain.
Qui était le pain. Ça pouvait se conserver. J'ai même su que ça se conservait en environ 9 jours. Et ensuite, on la faisait frire ou... quand elle était trop dure, quoi, je pense.
C'est ça. On peut supposer que Napoléon Bonaparte avait consommé de la farine de châtaigne.
Alors, à ma connaissance, il y a une occurrence où il explique que quand il était puni, qu'on le mettait au pain sec, eh bien, il s'échappait pour aller échanger son pain, qu'on suppose blanc, contre le pain de châtaigne des bergers.
C'est
donc, autant dans le texte qu'on écoutait tout à l'heure, il n'était pas fait mention de châtaigne, autant il y a ce petit souvenir, là encore, qui renvoie à l'enfance, et où, à l'évidence, c'était un plaisir pour lui, par rapport au pain blanc, au pain de céréales, que de manger ce pain de châtaigne.
Donc, Élodie Balèze, il y a eu bien raison de nous la préparer. Comment on s'y prend? Alors, ça ressemble à une espèce de pain que vous nous avez coupé en tranches. Ensuite, les tranches ont été poêlées. Et oui. On obtient ainsi des petites galettes de couleur brune claire.
Bon, là, je l'ai faite poêler, parce que elle a voyagé. Et comme ça, vous avez les deux formes, donc
la polenta, pas poêlée,
on la mange, voilà, soit comme elle est là aussi fraîche, ouais. Enfin fraîche, cuite et en comme ça en rouleau qu'on découpe, on la mange fraîche notamment en hiver, on la mange avec du broche, du figaté, le nou,
hein.
La période froide, c'est ça. Non, chaude. On la fait chaude, on fait le broche et le figaté. Maintenant ça se passe comme ça parce qu'il y a très peu de farine de châtaigne, donc maintenant c'est devenu un peu un mets d'exception, alors qu'avant on la consommait beaucoup plus, donc il y en a très peu. Et maintenant le plaisir, on l'accompagne avec le broche, le figaté et les œufs, ça fait un plat très complet
et protéiné,
ouais. Et c'est comme ça qu'on la mange maintenant, donc comme en la frite, c'est on la mange le lendemain en principe.
C'est ça.
Quand il reste le morceau froid, on le découpe et on le frit comme ça.
Votre recette est en ligne sur franceinter.fr, voilà. À la page On va déguster, Élodie. Mais comment, en quelques étapes, on s'y prend? On obtient d'abord une bonne farine de châtaigne, de préférence corse, puisqu'elle est protégée.
Voilà, exactement.
Une appellation d'origine protégée depuis 2010.
Exactement.
Et ensuite, c'est de l'eau et du sel.
C'est de l'eau et du sel, voilà. De l'eau et du sel, et puis un bon tour de main. et un peu de force dans les bras, quelques personnes qui tiennent une casserole.
C'est ça. D'habitude, il y a un bâton spécifique.
Il y a le poulindad, hein. Oui. C'est un bâton qu'on peut faire, qui est traditionnellement fait en bois de châtaignier aussi, hein, tant qu'à faire. Et c'est un bâton comme quelque chose de rond avec lequel on tourne la polenta jusqu'à ce qu'elle soit cuite, quoi.
Je m'y suis déjà essayé. C'est vrai qu'il faut avoir de sacrés biscottos, hein. Voilà. Un peu d'huile de coude parce qu'à un moment donné, ça résiste beaucoup. Voilà. Et on obtient comme ça cette pâte assez mastoc que vous façonnez, que vous moulez en quelque sorte.
Exactement.
Dans un torchon.
Et ouais, dans un linge, on la moule sur un peu de farine de châtaigne fraîche et voilà. Et puis après, on la laisse un peu reposer et on la sert.
C'est bon, non?
Ah, c'est un délice.
Sucré, suave, oui. Légère amertume.
Un petit goût de fumée, un petit goût de
c'est
bois.
Fumé, ouais. C'est fumé, la farine de châtaigne, elle est fumée.
Alors elle est séchée en fait au feu.
Elle est séchée, ouais, c'est ça, au feu de châtaignier en principe, au feu de bois de châtaignier, parce que le châtaignier c'est quand même un truc hyper qu'on utilise tout. Et donc en principe, elle est fumée au feu de châtaignier. Maintenant, ils peuvent la faire dans l'AOP, c'est autorisé de la sécher aussi un peu au gaz, jusqu'à ce que les châtaignes soient hors de danger spiricou. Comment on m'a dit ? Elles sont en dehors de danger jusqu'au moment où elles ont été assez déshydratées.
C'est
pour
ça.
Les
qu'elles soient voilà. Pour qu'elles aient été suffisamment séchées.
Elles sont un peu assez séchées et ensuite ils la finissent au feu
pour enlever toute l'humidité et qu'elles ne soient
exactement.
Pas soumises effectivement à une activité bactériologique trop forte. On va poursuivre notre découverte de Napoléon à table. Derrière la console, Laurane Thomas, Adèle Caglar, Marie Mougin, Nadia Chougui. On reste en Méditerranée pour notre voyage musical. Andrea Lazio de Simone avec le titre Dal giorno in cui sei nato tu, choisi par Giubacca. On va déguster à la table de Napoléon sur France Inter.
Dal giorno in cui sei nato tu, la vita è musica e fantasia. Hai dato un volto alla vita mia, ed ora è tua. Mondo e musica e fantasia, questo è importante, il resto è una bugia che si racconta chi non ha ironia in vita sua. È musica e fantasia, tienilo a mente, non ti perderai, vedrai crescendo, lo capirai, lo capirai. La vita è musica e fantasia, ma se ti perderai, che vuoi che sia? Basterà viverla con ironia, basterà viverla. Sei grande ormai, tra un mondo diventerai quello che vuoi. Per me tu sei tutto, per me tu sei, tu tutto sei. Tu sei fantasia, tu tutto sei. E i tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e dentro al cuore ho un amore grande più del cielo. I tuoi bracci sono i più belli del mondo, e i tuoi occhi sono i più sinceri, e nel cuore ho un amore vero dal giorno in cui sei nato tu.
On se met à la table de Napoléon Bonaparte, mais alors on va se mettre à la table de celui qui fut à la fois général des armées françaises, devenu premier consul, puis sacré empereur des Français en 1804. Loïc Bienassis, l'historiographie officielle dépeint systématiquement Napoléon, un peu à l'image de ce que disait Jean Tullard dans l'accroche de cette émission, dépeint Napoléon comme un piètre gastronome. Et dans Les goûts de Napoléon aux éditions Grasset, je voudrais signaler ce livre signé Philippe Costa Magna. Voici ce que cet auteur écrit. Napoléon prenait ses repas à une allure qui étourdirait même un habitué de la restauration rapide. Est-ce que cette réputation de mangeur pressé est documenté historiquement, Loïc? Oui,
là vraiment c'est un point de consensus de tous les mémorialistes, vraiment tout le monde s'accorde à dire que en gros on voit qu'il passait 8 minutes à table pour son déjeuner, peut-être 12, 20 minutes, ça dépend des sources, pour son dîner. Donc c'est, alors là oui, c'est documenté et tout le monde s'accorde à le dire et ça frappait ses contemporains, c'était vraiment quelque chose qui marquait les esprits.
Petit déjeuner aussi expéditif, il se contentait d'un thé ou d'autres fleurs d'oranger, mais en tout cas pas grand-chose.
Oui, alors, on parlait pas vraiment de petit déjeuner, là, c'est vraiment au réveil, il prend, alors il se réveillait peut-être vers 7 heures, voilà, il prenait juste donc cette boisson, tasse de thé, ou... Et puis après, son déjeuner, là, on est plus vers 9h30, et là, c'est là où c'est mené au pas de charge. Vraiment 8 minutes sur un guéridon, mais Naples, il s'assoit et il mange. Et puis le soir, alors seul. Hein. Et puis le soir, alors évidemment, il pouvait être aussi en campagne. Là, je parle de la vie aux Tuileries. Hein. Ou à Saint-Cloud. Et puis le soir, donc vers 18h, 19h, là, il dîne avec l'impératrice. Mais alors, le pas de charge est peut-être moins soutenu, mais en tout cas, c'est quand même très rapide, comme je le disais, une vingtaine de minutes. Et c'est vraiment quelque chose, quelquefois avec des invités, quelque chose qui, je le répète, étonnait un peu tout le monde.
C'est ça, vous évoquez l'impératrice Joséphine. Malheureusement, on pourrait s'y intéresser aussi, dans la mesure où elle a été visiblement assez importante pour la mise en avant des arts de la table. Elle aurait acclimaté aussi des produits tropicaux dans le potager du château de la Malmaison. C'est ce que m'a raconté notamment Laurent Thomas, notre réalisatrice, qui est allée visiter le château de la Malmaison hier, et notamment cette fameuse patate douce qu'elle a acclimatée dans les jardins de ce château. On dit aussi, c'est en tout cas ce que des historiens affirment, que Napoléon mangeait salement, se tachait en mangeant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est quelque chose qu'on trouve chez Constant, qui était son premier valet de chambre dans ses mémoires. Il faut se méfier des mémoires de Constant qui ont été largement réécrites. Des Anglais aussi l'ont attesté, qui mangeaient facilement avec les mains, qui... En même temps, Napoléon était quelqu'un de très soigneux, qui faisait très attention à ses habits, à
très
sa tenue.
Très à cheval sur l'hygiène.
Tout à fait. Donc, j'avoue que à ma connaissance, là encore, je connais pas beaucoup de sources qui, c'est pas quelque chose, à l'inverse de ce que je viens de dire, qui frappait les contemporains. Constant le dit, son premier valet. Sortie de ça.
Pour vous, c'est pas suffisamment fiable.
Non,
je l'ai bien compris. Et on sent surtout aussi la prudence très appréciable de l'historien Loïc Bienassis. Ça, c'était les repas privés. Il y a aussi ensuite, évidemment, les repas protocolaires ou officiels. Comment ils se passaient? Est-ce qu'ils étaient tout aussi expéditifs?
Alors là, c'est justement, il y a quand même cette idée, j'allais dire, Napoléon était soucieux de restaurer aussi, un ordre d'ancien régime. Donc la table reste un outil de prestige. La maison de Napoléon, c'est quelque chose de très imposant. La maison impériale, il y a énormément de serviteurs. Hein, on estime qu'elle compte 2700 personnes. Et les services de bouche, c'est aussi quelque chose qui compte dans cette maison. Donc le prestige, alors il n'est peut-être pas gastronome à titre personnel. Par contre, concevoir la table, les arts de la table, comme un outil qui fait rayonner l'empereur, l'empire, il se doit d'utiliser ça comme levier aussi.
Le contenant plutôt que le contenu?
Alors, il est clair que... alors, attention en disant ça, il avait aussi de grands cuisiniers à son service, Dunant, dont on reparlera. Donc, je pense que le contenu aussi. Hein, c'était, encore une fois, il faut différencier, sans doute, à titre personnel, l'empereur qui n'est pas gastronome du fait que la table impériale se doit aussi d'être à même de tenir son rang.
Et on raconte que quand il loge au château de Saint-Cloud, de l'autre côté du parc se trouvent les manufactures de Sèvres qui ont été fermées pendant la Révolution et qui auraient été rouvertes et développées par Napoléon, et l'empereur aimait, paraît-il, aller y flâner, discuter, choisir des services.
Alors, il est clair que la maison impériale, c'est le premier client de la manufacture de Sèvres, aucun doute là-dessus, avec tout un tas de services. Alors, il y a le service particulier de l'empereur, il y a aussi notamment ce service égyptien, qui est sans doute le plus connu, avec ce qu'on appelait un surtout, qui était une grande pièce qu'on mettait au centre de la table, qui fait partie de vraiment des grandes tables prestigieuses depuis la fin du XVIIe siècle, qui est ornementale. Et il y avait ce surtout avec des temples égyptiens dessus, des obélisques qui faisaient 6,50 mètres de long, et qui étaient sans doute le chef-d'œuvre de ce service égyptien. Donc oui. Incontestablement, Napoléon, la maison impériale, faisait rayonner la table à travers les arts de la table, et notamment la manufacture de Sèvres, hein, mais évidemment pas seulement. Hein, mais...
Et évoquons par ailleurs que le règne de Napoléon fut aussi celui de la gastronomie de manière plus générale, qui s'est développée activement en France. L'entourage gastronomique également de Napoléon, citons quand même deux personnages, pour le coup très portés sur la chose culinaire, qui sont dans l'entourage très proche de l'empereur.
Alors, c'est Cambacérès et Talleyrand, bien sûr. Jean Tullard l'évoquait. Alors, c'est le mot gastronomie, gastronome, en fait, apparaît dans la langue française, on va dire en 1801, dans le poème de Berchoux, la gastronomie ou l'homme des champs à table. Donc, c'est un mot tout de suite qui prospère. La gastronomie, c'est discourir sur l'art de bien manger. Et c'est quelque chose qui devient légitime, en effet, à cette époque-là. Et puis, c'est aussi l'époque où les restaurants, qui a été inventé, on va dire, à partir des années 1760, le restaurant aussi assoit la réputation de Paris. Donc le rayonnement culinaire, c'est le restaurant, c'est le discours gastronomique Grimaud de la Reynière, et puis en effet, c'est Cambacérès, qui est le deuxième grand personnage du royaume, c'est Talleyrand, reste à savoir qui était le plus gastronome des deux, ça dépend des points de vue. Carême, par exemple, explique à quel point...
Antonin de son prénom.
Voilà, qui est le chef le plus célèbre de ce début du 19e siècle, explique que pour lui, Talleyrand était un bien plus grand gastronome que Cambacérès, donc Talleyrand, ministre des Relations extérieures, parce qu'il ne regardait jamais à la dépense. Mais Grimaud de la Reynière lui estime que c'est Cambacérès qui avait plutôt le dessus sur Talleyrand parce qu'il avait une meilleure connaissance du produit. Voilà.
Ben on prête justement à Napoléon cette phrase pendant le consulat. « Si vous êtes petit mangeur, venez chez moi. Voulez-vous manger bien et beaucoup, alors allez chez Cambacérès. » Vrai ou faux ?
Alors, la chose qu'on peut dire, c'est que cette phrase circulait déjà, parce qu'on a le témoignage d'un contemporain, circulait déjà du vivant de Bonaparte.
C'est ça.
C'est pas quelque chose, comme c'est souvent le cas, qui a été réécrit des décennies plus tard. Est-ce qu'il l'a vraiment prononcé ? Ça, je pense qu'on est bien incapable de le dire. Mais en tout cas, ce qui compte surtout, c'est cette idée. Cette idée que Napoléon n'est pas le gastronome, que tout le monde le savait, mais que par contre, d'autres se chargent un peu de cette tâche.
On va en arriver à une recette mythique avec notre chef Élodie Balèze. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette assiette qu'elle vient de nous dresser. On joue encore un peu le suspense, le temps de résoudre une petite énigme sur laquelle reviennent bon nombre de nos auditeurs qui nous demandent, Napoléon avait-il de l'appétit ? Mangeait-il ? Au-delà du fait de manger vite, on peut manger beaucoup et vite. En d'autres mots, était-il plutôt frugal ou glouton ? Est-ce que sa taille et son poids pourraient nous donner une indication ?
Alors, à ma connaissance, on ne connaît pas son poids. On pense qu'il faisait 1,68 m. Il est clair que on était frappé durant sa jeunesse, au contraire, par sa minceur, voire sa maigreur.
Ouais.
Et que, à partir de 1810, les observateurs commencent à dire qu'il prend du poids jusqu'à frôler l'obésité, notamment lorsqu'il est à Sainte-Hélène.
Ah.
Pour autant, et apparemment, Napoléon lui-même déclarait plus jeune qu'il estimait que vers 40 ans, il courait le risque de devenir gros, que c'est quelque chose, ce sont les mémoires de Bourrienne qui évoquent ça, que c'est quelque chose qu'il redoutait. Et ce serait effectivement le cas, mais pour autant, il n'a jamais été considéré comme un gros mangeur.
D'accord.
Donc le mystère de la prise de poids, je sais pas.
Donc mangeur pressé, mais pas mangeur si glouton que ça. Ses préférences alimentaires, alors on en a évoqué déjà quelques-unes, évidemment. Il paraît qu'il aime le café brûlant. Ce n'est pas un grand amateur de viande, mais il a quand même un petit péché mignon au rayon des viandes.
Alors, il aime les volailles. Hein.
C'est ça.
Oui, il aime vraiment les volailles sous toutes leurs formes. Donc là, c'est la viande qu'il préfère. Pour les autres viandes, il explique qu'il les aime très cuites, par contre. Mm-hmm. Donc, quand même, amateur de volailles, incontestablement. Amateur aussi de pâtisserie, mais alors au sens du temps, c'est-à-dire les bouchées à la reine, par exemple.
C'est ça.
Donc, c'est...
Les feuilletages, les vols au vent.
Voilà, exactement. Donc, et puis, ben, on se doit de le redire aussi, amateur de macaroni, parce que ça, je pense qu'il faut insister sur ce point, sous toutes leurs formes. Donc, et quand même aussi de légumes. Alors, il y a des témoignages qui expliquent qu'il en mangeait peu, mais lui explique aimer les haricots verts, les lentilles.
Hein, si possible.
Sans fil, oui,
sans
tout
fil.
À fait.
Il avait un petit problème avec les fils dans le haricot vert. Non, mais c'est sérieux.
Absolument.
C'est tout à fait documenté.
Tout à fait, c'est-à-dire que... Apparemment, Napoléon avait facilement des haut-le-cœurs et les fils des haricots verts qui évoquaient les cheveux pour lui le répugnaient assez.
En revanche, une volaille qui ne lui donnait pas de haut-le-cœurs, justement, eh bien, c'est le poulet. Et on en vient tout naturellement avec vous, Élodie, à une recette mythique du répertoire français, celle du poulet maringot qui a, pour le coup, vraiment passé toutes les époques et qui continue à être d'une très forte actualité. Maringot, en un mot, avant de vous donner la parole, Élodie, référence à une bataille que vous nous resituez, Loïc.
Alors, on est 14 juin 1800, bataille contre les Autrichiens au nord de l'Italie. Il y a toute une légende comme quoi, donc je le dis d'emblée, une légende, comme quoi le soir de Maringot, après la victoire, Napoléon se retrouve dans une ferme. Or, il n'y a aucun ravitaillement, aucune victoire. Et son chef, Dunant, est obligé d'improviser un plat avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire justement, puisqu'on est dans une ferme, avec un poulet, avec des tomates, avec le vin blanc local, avec des écrevisses prises dans la rivière qui passent à côté. Et donc voilà, ce serait l'acte de naissance du poulet maringot.
Mais c'est de la foutaise.
Et ben, je le crains.
La légende a été inventée après.
Oui, elle a été inventée après, c'est-à-dire qu'à partir des années 1840, je crois qu'on commence à évoquer cette improvisation, et à partir du tout début XXe siècle, selon moi, on commence à dire que c'est Dunant, qui est effectivement son chef, qui a inventé cette recette. Il y aurait 10 000 choses à expliquer pourquoi c'est faux. Une chose très simple, c'est que Dunant, de toute façon, n'était pas encore au service de Napoléon à cette date-là.
C'est une bonne raison, mais déjà, effectivement, donc il y avait une forte incohérence dans cette légende qu'on apprend même à l'école, alors qu'effectivement, elle repose sur pas grand-chose. Élodie Balaisie, vous m'avez confié en préparant cette émission que c'était la première fois que vous étiez frottée au poulet maringot.
Ouais, c'est vrai.
Et ben, je peux vous dire que, comme toutes les premières fois, elle vous a porté chance parce que cette recette est remarquable. La tendreté du poulet, cette petite sauce aux champignons légèrement tomatée sur une purée, on se croirait vraiment au restaurant et vous avez fait tout ça pourtant dans un studio incroyable. Votre approche du poulet maringot ?
Ah ben mon approche du poulet maringot, j'ai pas pris les écrevisses.
Oui.
Parce qu'à Cointe, ça y en a pas. Et donc, je suis restée sur l'idée de faire avec les produits qu'on avait à proximité. Donc, le poulet. J'ai utilisé de la sauge. Je vous explique la recette.
Oui.
Ouais, super. Donc, j'ai fait une sauce comme un ragoût, quoi. Revenir la viande et déglacer vin blanc, champignons, tomates fraîches.
Ça, champignons, un peu de tomates, tout ça, c'est vraiment dans la recette historique.
C'est ça,
pas votre
approche personnelle. Non, c'est pas mon approche personnelle. J'ai utilisé de la sauge parce que j'en ai dans le jardin et que tant qu'à faire avec ce qu'on a. Et j'ai changé, c'est des girolles. Parce qu'on a des girolles, chez nous. Donc, les girolles. Voilà, donc ensuite c'est simple, hein, juste une cuisson particulière pour le poulet. Je l'ai fait cuire sous vide parce que c'est quand même plus moelleux.
Gage de tendreté.
Voilà, c'est ça. C'est quand même quand on a un bon produit, tant qu'à faire, je l'ai fait cuire sous vide et c'est vrai que du coup ça donne une bonne cuisson. Mais n'importe qui peut faire cuire le poulet à basse température, ça rendra pareil. Et il suffit de le faire cuire plus longtemps, mais vraiment doucement, à 80, très longtemps, en cocotte, ou même au four, doucement, dans un peu de jus, et puis ça rendra super.
Et pour la sauce, tout est revenu ensemble?
La sauce, tout est revenu ensemble.
Avec l'oignon aussi?
Oui, les oignons, oui, bien sûr. Les oignons, la tomate, la viande déglacée, puis réduit jusqu'à une consistance un peu sirupeuse.
Après, le jus est passé.
Voilà, le jus est passé au chinois, quoi, et il est réduit. Voilà, c'est
vraiment,
tout.
Non, bah, c'est tout.
C'est tout.
La simplicité, on sait que c'est souvent ce qui est le plus compliqué, mais c'est vraiment une recette absolument extraordinaire qui peut-être. Elle est, mais vraiment délicieuse. Vous l'avez accompagnée d'une purée.
Oui.
Une belle purée de pommes de terre.
J'avais prévu des beignets, mais ça n'a pas été évident ce matin.
Les beignets voyagent mal jusqu'au studio 521 de la maison de la radio en général. Voilà. Franchement, vous en pensez quoi, Loïc? Est-ce que vous êtes replongé un peu dans une époque où le poulet maringot était encore plus à la mode qu'aujourd'hui?
Alors, question tendreté, c'est surtout ça qui est frappant. Je trouve la tendreté de la viande, là, c'est vraiment impressionnant. Et mais ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est parce qu'on explique ce qu'est la vraie recette. La première codification qu'on a de la recette du poulet maringot et en fait du lapro aussi maringot.
Oui, parce qu'il y a eu plein de viande. On parle aussi de veau, hein.
Tout à fait, mais c'est dès 1820, c'est la première codification qu'on a, et c'est une recette qui est en fait totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, où en fait l'ensemble de la cuisson se fait finalement à la poêle, dans l'huile, et ensuite on met avec le reste des ingrédients, et on laisse un petit peu mijoter, mais très peu de temps.
C'est ça. Donc,
la viande est déjà cuite à ce moment-là.
La viande est déjà cuite. Extraordinaire recette, bravo Élodie Balèze.
Ah oui.
Alors on explore évidemment avec nos deux invités les recettes de Napoléon et les relations de Napoléon avec son assiette, comment cela se passait aussi dans son verre. Eh bien, on en parle avec notre chroniqueur Antoine Gerbel.
On va déguster sur France Inter.
Antoine, c'est à vous.
Alors, il buvait son eau glacée et l'utilisait pour couper son chambertin, le seul vin qui l'accompagnait toute sa vie. Alors, Loïc, déjà, me tourne vers vous, parce qu'il y a quelques mots quand même autour du vin et des alcools. Napoléon, c'est une marque, c'est devenu une marque avec le temps. Là, c'est pas l'historien qui parle, mais on sait très bien. Est-ce que c'est vrai, cette légende, que d'abord son médecin, Corvisart, lui avait conseillé de boire du chambertin?
Non.
Voilà, rabat-joie.
Oui, non, mais c'est important.
Non, c'est une mauvaise interprétation de texte de Sainte-Hélène. Et en fait, non, Corvisart n'a jamais dit ça.
D'accord.
Bon. Alors, est-ce qu'il coupait son vin avec de l'eau glacée?
Alors ça, oui, avec de l'eau.
Et du chambertin de préférence, ça sert.
Alors, du chambertin, sauf que la question, c'est de l'appellation. Aujourd'hui, évidemment, il y a une appellation clairement définie pour le chambertin et à grand cru, mais ça peut être du Gevrey chambertin ou alors du fixin même.
Voilà.
Parce qu'il y a plus de flou dans les appellations. Quant au fait de couper avec de l'eau, c'est tout à fait banal pour l'époque. C'est-à-dire que ça prouve pas que Napoléon... Il n'avait sans doute pas un grand goût pour le vin, mais c'est pas le fait de le couper à l'eau.
Une habitude méditerranéenne, assez méditerranéenne. On coupe le vin avec de l'eau autour de la Méditerranée. À cette époque-là, c'est très frais.
Mais même dans les usages parisiens, même dans le début 19e siècle, à Paris, les courants de couper.
On a une auditrice aussi qui se mêle au débat, si vous voulez bien, Antoine Gerbel.
Muriel Lavial nous demande si nous parlerons du vin de l'empereur, comme elle l'appelle, qui est le blanc de Volksheim. Si elle ne se trompe pas,
gros
son
piège.
Préféré. Elle est descendante d'une branche de vignerons alsaciens, je précise.
Oui. Notre historien, il fait les gros yeux, il se renseignera.
C'est ça, voilà. J'aimerais bien qu'on n'en parle pas trop, parce que j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire.
Alors, j'évoquerai en fin de chronique la commémoration, parce qu'effectivement, Napoléon est sur énormément d'étiquettes. Étiquettes de vin corse, bien sûr, mais on peut en rappeler. Et je veux dire une dernière chose, le cognac, parce que la marque Napoléon est très importante. En fin de compte, il ne buvait pas d'eau de vie, je crois.
Non, il y a quelques mentions, peut-être de temps en temps, mais non. Non, alors ça, au contraire. On explique qu'il en buvait exceptionnellement.
Alors, le bicentenaire de sa mort permet surtout, de ma part, d'évoquer les formidables progrès des vins de sa région natale, bien évidemment la Corse, et particulièrement Ajaccio. Parce que, on sait, mais oui, il se plaignait de ne pas avoir fait assez pour la Corse. Alors, on peut aussi prendre le relais et parler de cette région. On en parle souvent dans cette chronique. L'émulation qu'il y a depuis à peu près une trentaine d'années en Corse est assez spectaculaire. Peu de régions françaises connaissent une telle émulation. Le Nord et le Sud ont des habitudes très différentes. Il y a des cépages au Nord qu'on ne retrouve pas au Sud. Et au Sud, on va dire que c'était un petit peu lent à se mettre en place. Le Nord, avec cette belle appellation, s'appelle Patrimonio, qui rayonne. Et au Sud, autour d'Ajaccio et de tous les villages, Sartène, Calvi, tout ce qui était un peu plus, on peut dire, un peu plus facilement tourné vers des vins de touristes, si on fait un peu court.
Attention, Élodie Balèze, il vous surveille du coin de l'œil.
Qui a été régénéré dans les années 60 avec ce qu'on sait. Or, aujourd'hui, on se retourne vers les cépages dits autochtones. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a 25 aujourd'hui qui circulent. Tous ne sont pas très passionnants. Mais un qui reste, bien évidemment, c'est le Chacarello, et je vais demander à François Régis de nous épeler Chacarelle.
Oula, à défaut de vous l'épeler, je vous donne la prononciation.
Combien de consonnes
là-dedans? Chacarelle loup.
S-C-I-A-2-C-A-R-E-2-L-U.
Voilà. On aurait pu demander à Elodie aussi.
Moi, je vous l'aurais appelé de suite.
Voilà, exactement. Alors, pourquoi Chacarello? Parce que Chacarello, c'est un cépage noir, donc qui est vraiment bien implanté dans la région d'Ajaccio, qui se plaît bien au dos des montagnes, là, et ouvert vers la mer. C'est un microclimat. Et progressivement, il est en train de remonter encore. C'est un peu ça, un combat assez intéressant parce que on a d'abord fait du rosé avec, assez tendre, un peu sucré, qui plaît bien. Et puis, on se rend compte que dans des assemblages plus au nord, par exemple dans ce qu'on appelait jadis la plaine orientale, mais aujourd'hui qu'on appelle plutôt le Piémont corse, on voit du Chacarelle planter et donner des vins vraiment très, très, très délicats. Et alors, je vais vous faire une petite dégustation, une petite battle dans votre verre, parce que je vous ai mis dans le premier verre un vin que je connais depuis ses débuts, depuis 2008. J'avais rendu visite à ce vigneron très intéressant. Alors, on est sur la plaine de Péry.
Alors, et ouais.
Voilà. Et c'est Laurent Costa, ça s'appelle Aperaccia. Et Aperaccia, c'est le vin corse. J'ai cherché un petit peu un vin qui n'a pas trop bougé dans son attitude un petit peu agricole, on va dire. C'est du vin qui a toujours été fait comme ça. Lui, Laurent, c'est un ancien mécanicien dans l'aviation militaire. Il en a gardé malheureusement des séquelles puisqu'il est à moitié sourd. Il faut parler très fort, mais il a un enthousiasme extraordinaire. C'est son, de mémoire, je crois que c'est son oncle qui lui a appris la vigne. Il ne savait absolument pas faire de vin, il a appris. Et je trouve que dans ce vin, il y a ce côté capiteux, riche, solaire, qu'on a, on va dire, avant une époque un peu sophistiquée par l'œnologie. Mais il fait très très bien son travail. Il a longtemps été, on va dire, la petite adresse chérie des gens du village, parce qu'ils vendaient à l'ancienne, à la tireuse, du vin au litre, pas cher, mais délicieux, donc on s'en régale l'été. Aujourd'hui, ces vins sont plus sophistiqués. Là, je vous ai mis dans votre verre, sa cuvée s'appelle Prestige. C'est un petit peu boisé, c'est un peu cacaoté, ça va oui. Un peu, on va dire, dans ce sens un peu confit que prend très rapidement le Chacarelle.
C'est quel cépage, ça, Antoine?
Chacarelle,
bien sûr, tout simplement. Ah
bah, tout simplement.
Elle suit bien la chronique.
Mais elle en est, je pense que c'est déjà son premier verre, c'est assez efficace. Non,
mais en fait, j'ai fini mon verre depuis 10 bonnes minutes, c'est le fil.
Elle veut encore un peu de Chacarelle, c'est ça.
Je pensais que c'était éventuellement un assemblage.
Elvira, j'aurais dû vous dire que sur l'étiquette, c'est un 2018. Et 2018 est l'année la plus chaude qu'on ait connue depuis très longtemps.
Vous avez votre explication.
Ça fait 15 degrés.
Ah oui,
mais on est sombre. Non, mais le Chacarelle peut monter effectivement en degrés comme ça. Donc, je vous conseille, c'est très très abordable comme prix et vous avez vraiment le goût d'Ajaccio. Alors, il y a plein de très belles propriétés dans le sud. Je vais citer rapidement parce que voilà, il faut avoir des repères. Le Domaine Facelli, la famille Courrèges, le Clos Capitoro, les Bianchi qui sont là depuis très longtemps, Claude Alzetto. Plus récemment, Oustichon, c'est la famille Poli Casabianca. Et puis, je peux pas non plus ne pas citer la famille du comte Abatucci.
Oui, Jean-Charles.
Jean-Charles Abatucci, donc les grandes cuvées général de Révolution, diplomate d'Empire, ministre, font référence au riche passé impérial de la famille, plutôt côté Napoléon III. Hein. Je précise. Et bien évidemment, tous ces vins, vous allez retrouver dans leur gamme une grande part de Chacarelle. Voilà. Et maintenant, dans votre autre verre, allez, on remonte, on prend la route direction Bastia. On est plus au nord. On arrive là où à la jonction. Même à un moment, soit on tourne vers Calvi, soit on s'en va sur Bastia. On est à Ponte dell'Elcia. On est chez la famille Venturi.
Oui.
Alors, c'est aujourd'hui un domaine incontournable. Les Venturi, sont des gens qui incarnent le renouveau vraiment de la qualité et de la quantité. Je précise aussi, c'est très bien aussi de faire des vignes avec 4 hectares, mais les Venturi ont 78 hectares aujourd'hui, donc c'est un très grand domaine qui est en biodynamie. Et alors goûtez, je veux avoir votre avis parce que c'est goûtez, dites-moi comment vous trouvez ce Chacarelle du Nord. Moi je le trouve beaucoup plus délicat, beaucoup plus salé. C'est très 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 fin, très très délicat, très très salé.
C'est précis, c'est fin.
C'est très précis. Équilibré. C'est vinifié sans soufre, uniquement en soufre naturel, pardon. Et ça, c'est, faut chercher pour comprendre comment, ce qui donne cette délicatesse. Voilà. Et ça aussi, c'est très abordable. C'est la cuvée Brahma de Manu Venturi.
Absolument.
Un domaine que je vous conseille aussi très fortement d'aller visiter.
Et en s'arrêtant à Ponte Lecce, on en profite aussi pour s'arrêter chez Anne Marchetti, sa femme de pâtissière qui fait, sa femme pâtissière qui fait de remarquables macarons et autre douceur. Hein.
Voilà, et je termine juste cette chronique. La Corse, c'est aussi des rosés, et il y en a aussi des très très bons. Il y a une revue qui vient de sortir qui s'appelle Tanin, le vin passé en revue. J'ai commis quelques articles, je me dénonce, mais je n'ai pas commis un papier sur les rosés corses, et on trouvera des très très belles citations de rosés. Voilà,
très bien, Tanin.
Tanin.
C'est nouveau.
La revue Passer du Vin, numéro 1 en kiosque depuis le 9 juin.
Élodie Balèze, vous êtes restauratrice dans une très très belle adresse à Couëns, dans l'Altaroc. Et le vin y est bien représenté. Hein.
Ouais, ouais, on a...
Avec même de vieux millésimes.
Voilà, on a du bon vin, on aime bien le vin. Et d'ailleurs, on a beaucoup aimé la dégustation qu'on vient de faire. Et ouais, super vin, là, pour les midis au soleil dans le jardin, pour accompagner de la charcuterie, parfait.
Oui, et voilà. Si et Ajaccio est aussi dignement représenté, je parle de l'appellation sur
ouais,
votre
ouais,
carte.
Oui, on la représente, on essaye de faire de représenter un peu tout, et on essaye de le faire bien, quoi.
Non, il faut vraiment y aller. Si vous passez du côté de l'Altaroc, on n'est pas très loin non plus des Aiguilles de Bavel. Il y a le plateau du Cochon pour de magnifiques randonnées. C'est un coin que je connais bien en Corse. Le destin de Napoléon fut militaire, consulaire, impérial, mais aussi insulaire, Bonaparte et les îles. Vaste sujet quand même. Alors on a évoqué la Corse, évidemment, sa terre de naissance. Il y a eu aussi Sainte-Hélène, cette île au large de l'Afrique en plein océan Atlantique où les Anglais l'ont contraint à l'exil pendant les 6 dernières années de sa vie, jusqu'à sa mort en 1821, ce qui explique le bicentenaire cette année. Il y a une île où il a aussi choisi de s'exiler en 1814, après avoir été déchu du trône de France. C'est l'île d'Elbe. On y voyage avec Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
J'ai visité l'île d'Elbe. Napoléon est naturellement présent partout à un point qu'on accueille avec satisfaction la facétieuse pancarte d'un bistrot qui affirme en italien « Ici, Napoléon n'est jamais venu ». Ceci fait, on suit pas à pas le grand capitaine et on va où il est allé, notamment là où il a habité. Sa maison, qui n'est pas un palais, mais une villa comme pouvaient en avoir les bourgeois de l'époque, domine le large vers la France, c'est-à-dire la riviera du Ponant italienne. On se dit bêtement qu'on aurait bien accepté cet exil. L'île n'est pas d'une somptueuse beauté comme la Corse, mais la mer est toujours la mer et on la domine de haut, sur des grands fonds où elle est bleu marine. De l'autre côté, bruit tout doucement la petite ville de Portoferraio. Avant de monter chez Napoléon, on a parcouru ces places animées d'un monde de pêcheurs naïfs, hospitaliers et arrogants, comme devait l'être la population des échelles marines de l'Odyssée. On a vu de grands gaillards taillés en armoire à glace manger, en plein vent, du poulpe au vin. Cela se fait en choisissant d'abord une fourchette dans un bocal. On vous plante la fourchette dans une marmite où bouillotte le poulpe dans son noir. On vous la sort ayant piqué une sorte de grosse araignée qu'on s'engoule en rejetant la tête en arrière. Tout ça pour dire que la rue est bon enfant et qu'on sent tout de suite en son âme l'exquis laissé-aller des grandes paix. C'est un extrait d'un recueil de chroniques dont le titre est « Les terrasses de l'île d'Elbe ». Il est signé, François Régis, d'un écrivain que vous aimez beaucoup.
Et oui,
beaucoup,
que
beaucoup.
Je mets très haut dans mon panthéon personnel. C'est Jean Giono.
C'est Jean Giono. Et Giono nous rappelle que le destin de la plus grande île de l'archipel toscan est lié à Napoléon, qui a passé donc 300 jours entre 1814 et 1815, et qui a laissé une empreinte importante. Il a contribué notamment au développement agricole de l'île, en faisant assécher les marais, en améliorant le réseau routier, en développant une viticulture déjà bien implantée depuis les Étrusques. À son arrivée, considérant que la cuisine était un peu fruste, il l'aurait tout simplement fait contribuer à la faire adapter à son goût impérial. Il en reste un témoignage, un livre, « A tavola con l'imperatore », à table avec l'empereur. Ce sont des recettes recensées par une figure de la gastronomie italienne, grand connaisseur de l'île, qui s'appelle Alvaro Claudi. 70 recettes elbo-napoléoniennes, pourrait-on dire, un genre de cuisine fusion avant l'heure, inspirée du terroir local, mais complètement chamboulée, avec des choses du genre pigeon bardé d'ail en panure et frit, des fritelles de riz au safran. La personne qui m'a parlé de ce livre, dont j'ignorais l'existence, s'appelle Tala Iskandar. Elle aussi est une grande connaisseuse de cette île, où elle n'est pourtant pas née, car elle est née au Liban, puis a grandi en France, avec son mari Gabriele Muti. Ils ont un restaurant à Paris, dans le 9e arrondissement, rue La Bruyère,
Uncino,
où Gabriele rend hommage à la cuisine de l'île où il a grandi et où ses propres parents tenaient un restaurant, une institution locale, Il Baretto. Et elle est un peu partout cette île, même si elle ne dit pas vraiment son nom dans la cuisine de Gabriele, une cuisine essentiellement marine, du poulpe, lard de colonnata, réduction d'eau de poulpe à la cardamome noire, jus de courgette, jusqu'au spaghetti à l'araignée de mer, en passant par une herbe emblématique de l'île d'Elbe, la népitella. jumelle de votre Nebida Corse, la Nebida de François-Régis et Élodie. L'île d'Elbe, ce micro-terroir dont Talam a si bien parlé, que Pline l'Ancien qualifiait d'île de vin et de fer. Fer comme Portoferraio, la principale ville de l'île. Fer comme les mines qui ont fait la richesse de l'île avant d'être abandonnées au profit du tourisme. La cuisine de l'île d'Elbe est donc une cuisine de mineurs et de pêcheurs. Tala et Gabriele se sont mariés là. Et c'est le même Alvaro Claudi qui a fait paraître le livre de recettes napoléoniennes, qui a préparé le dîner de leur mariage. On y a servi aux invités un vrai casse-croûte de mineur, la sburrita. Le pain de la veille, frotté à l'ail, de la morue cuite dans un bouillon, le pain arrosé avec ce bouillon, cette aquapazza, ce bouillon de pochage du poisson, agrémenté de cette nepitella au goût si distinctif, ce mélange un peu quoi, de, on dirait de menthe et de poivre.
Ouais, c'est entre la marjolaine, en même temps il y a des accents mentholés.
Exactement. Je ne sais pas si ce plat, la sburrita, a trouvé grâce au palais de Napoléon, mais on la goûterait bien, cette sburrita ancestrale, et on se sentirait sans doute venir, ce que Giono appelle si joliment, l'exquis laisser-aller des grandes paix.
Ah bravo, quel beau voyage à l'île d'Elbe, ça donne carrément envie de tout lâcher et d'y aller, de s'y exiler, puisque c'est une île magnifique qui on voit souvent comme ça au large de la Corse et qui appartient en fait à la province toscane. On est en train de servir une autre île, mais alors c'est une île qui tient cette fois dans un gobelet en carton. Élodie va nous en parler en un mot, une île qui... Alors, qui n'est pas une île qui a été dégustée par Napoléon, mais qui est une libre interprétation, c'est l'île flottante.
C'est l'île flottante.
Voilà. Pourquoi ?
Parce que Napoléon, il semblerait qu'il aimait beaucoup des ingrédients simples, des œufs, du lait, et pourquoi pas l'île flottante, des œufs, du lait.
Absolument.
Donc, puis pour rappeler un peu la Corse, infusé à l'orange corse, un peu de vanille pour la
simplement
pour Joséphine et puis on est bon.
Mais c'est très bon, vous avez eu ça,
c'est fou hein. Voilà,
c'est quelque chose avec les œufs en neige qui sont mousseux en bouche. Alors île flottante, il fait la grimace notre
ah
historien.
Non, pas du tout, non.
De la bouche pleine.
Comment ça, pas du tout, Loïc?
Non.
Je suis en face. Hein.
Bah, il fait la grimace après avoir avalé son gobelet d'île flottante qu'il a adoré.
Ah, tout à fait. Notamment ce goût d'orange qui est
magnifique. Hommage à la Corse.
Non, mais alors ce qu'on sait, c'est que Napoléon a mangé notamment à Sainte-Hélène des œufs en neige. Parce que lorsqu'on dit œufs en neige début 19e siècle, il y a des chances que ce soit justement une île flottante. Parce qu'à l'inverse, l'île flottante, telle qu'on la qualifie aujourd'hui, si on regarde des recettes anciennes, des recettes d'île flottante du 19e siècle ou même du début du 20e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on lit Escoffier en 1903, son île flottante, en fait, ce sont des tranches de biscuits de Savoie, imbibées de kirsch, avec dessus de la confiture d'abricot, dessus de la chantilly, et c'est l'île flottante, j'allais dire canonique, jusqu'au milieu du XXe siècle.
C'est ça.
Par contre, les œufs en neige, ça, c'était l'île flottante. Si
on voilà. Et bien. Aujourd'hui, on dit plus tellement œufs en neige, on dit île flottante. En tout cas, c'est un bel hommage aux origines à la fois corse, insulaire. Enfin, c'est vraiment, en plus, une recette tout à fait prodigieuse. La recette est en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Vous la faites également à la table du Soleil Monté ou pas ?
Oui, on fait toujours l'île flottante.
Avec,
j'aime
comme
bien
ça,
les recettes de grand-mère.
Petit parfum d'agrumes.
Voilà, ouais, comme ça.
Extraordinaire.
Donc, pas cette touche d'agrumes, elle est exceptionnelle.
Ah oui, exactement.
Est-ce qu'il était bec sucré, Napoléon Bonaparte, pour finir, Loïc Bienassi?
Alors, j'allais dire un peu, on a un témoignage comme quoi, de retour d'Égypte, il avait pris goût aux dattes, notamment. On sait que, travaillant la nuit, quelquefois, il réclamait des glaces. Donc, il y a comme ça des petites annotations qui montrent qu'il ne rechignait pas, ou alors, on vient d'en parler, même à Sainte-Hélène, il avait le droit à ces îles flottantes qui ne portaient pas ce nom-là. Donc, j'avais un peu bec sucré. C'est pas ce qui est le trait le plus saillant, mais c'est...
Et en parlant de sucre, un petit mot, vous avez une vingtaine de secondes pour expliquer cette fameuse initiative politique de Napoléon en faveur du sucre de betterave. L'histoire raconte qu'il aurait développé cette production sucrière, qu'il l'aurait lancée dans le nord de la France. Qu'en est-il ?
Alors, souvent, on estime que Napoléon a commencé le règne du sucre de betterave. En réalité, il a tenté de le faire. Il y a cette image avec Benjamin Delessert à qui il donne sa Légion d'honneur parce qu'il y avait ses pains de sucre de betterave. Mais en réalité, le vrai décollage, c'est les années 1830.
C'est ça. Donc, mais en tout cas, il a impulsé, il a lancé.
Volonté politique, mais échec globalement. et c'est venu ensuite, le développement du sucre de betterave.
Un grand merci Loïc Bienassi pour avoir éclairé de vos lumières le studio 521 de la Maison de la Radio. Merci Elodie Balèze.
Merci à vous.
Je le redis, allez au Soleil Monti à Cuenca, à une table traditionnelle très belle, avec une attention particulière aux produits, aux vins et une cuisinière exceptionnelle derrière les fourneaux. C'est Elodie, merci d'être venue jusqu'à nous en ce dimanche.
Merci beaucoup.
Je voudrais vous signaler aussi la sortie des goûts de Napoléon de Philippe Costamagna, qui nous a pas mal servi pour cette émission aux éditions Grasset. Et puis, je signale également le podcast de Philippe Collin, Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, déjà disponible à l'écoute la semaine prochaine. Du cidre, à dimanche prochain, si vous avez encore faim et soif.